de la politique at that large, la deuxième partie. Il est 14h09 et nous avons la joie d'avoir John Carrant, chef de la SO, et Jen Lee, chef aussi de la SO, d'une autre SO. Bien, alors nous allons leur parler. Et nous allons avoir un suivi sur la discussion que nous avons eue la dernière fois. Est-ce que vous avez une présentation ou est-ce qu'il s'agit d'un dialogue ouvert, une discussion ouverte? La discussion telle que nous l'avons eue lors de la réunion préalable à Costa Rica était une discussion au cours de laquelle nous avons vu comment mieux travailler ensemble, comment coordonner le ALAC, la communauté at large, les SO et l'ASO et sa propre communauté. Ça comprend les centres d'information, de réseaux d'information du monde entier et les organisations at large aussi au niveau régional. Donc, vous avez la parole. Si vous voulez, vous pouvez commencer. Bien. Un des points qui a surgi était de partager. Nous avons des informations, des contacts que nous utilisons, que nous envoyons à tous ceux qui participent au processus de développement de registres régionaux et nous coordonnons cela à travers les RA pour la communication. Et maintenant, j'ai les informations de contact du coordinateur d'ALAC. Et donc, maintenant, vous allez recevoir, si vous travaillez au niveau de la région d'ALAC, vous allez recevoir des informations sur notre RAR. Et donc, voilà, c'est ce que l'action à suivre que je voulais vous proposer. On y a répondu. On a répondu à cette action à suivre. Voilà, donc c'est fait. Merci, John. Est-ce que vous avez des détails concernant les adresses? Est-ce que vous avez besoin de d'autres informations? Nous, on a demandé aux coordinateurs de chaque région de nous donner ces données de contact, ces coordonnées. Si je peux, Monsieur le Président, je voudrais voir si nous pouvons... Sherling de Nord prend la parole. Et on pourrait peut-être faire un suivi sur l'ordre du jour des réunions du RALO. Comme ça, on conclut ce point-là, de façon à s'assurer que tout cela figure sur notre programme et pour être sûr que tout est enregistré correctement. Bien. Donc, c'est une action à suivre. Hein. Il faut s'occuper de cela. Et le prochain point est le calendrier d'événements qui a lieu au niveau des RALO et au niveau des registres régionaux d'Internet. Donc, je pense que c'était la prochaine étape pour voir comment les RALO peuvent participer davantage avec les RAR et participer aux événements qui ont lieu. Bien, donc on va commencer si vous voulez à parler. Une question qu'on nous a posée, et c'est qu'on a changé dans le cadre de l'évolution de la réunion d'ICANN. On n'aura pas de travail vendredi, apparemment. Nous rappelons à tous ceux dans ICANN qui s'occupent de cela, que beaucoup de nos discussions politiques n'ont pas lieu ici. Nos discussions politiques ont lieu à travers le monde et nous voulons rappeler aux gens que ce n'était pas vraiment un service qu'on nous a rendu. Donc, parce qu'on m'a demandé de le faire, on a organisé une session hier, une session de mise à jour à CSO, et ça a duré 15 minutes, et on a utilisé cette session pour me raconter un petit peu où on en est et quelles sont les politiques qui sont discutées actuellement. Ça a été très rapide, mais Ce n'est pas un processus non plus très long. C'est seulement une façon de vous inciter à participer. Je n'y ai pas pensé, mais si vous voulez, on peut faire cette présentation ici aussi, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne pourront pas participer à cette session. Olivier et Crépin Leblond prennent la parole. Nous avons un programme très, très dense. Hein, et pour tous les jours, hein, jusqu'à mardi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que nous ne pourrons pas participer à cette réunion. Donc, ce serait vraiment une bonne chose pour nous d'avoir un petit résumé de ce qui s'est dit. Hein. Est-ce que vous avez des diapos que vous pourriez passer à Ahmad pour qu'il les projette et pour que nos participants à distance puissent les voir? Tout se trouve sur le site de ICANN, sur le programme, donc pas de problème. Bien, donc je pense que Matt va s'en occuper. Matt, hier après-midi, c'était hier après-midi, donc c'était mise à jour des activités d'assaut SOAC. Et je vous donne même le chiffre, le numéro, hein. Donc, c'est le ASO, Organisation de soutien ASO, et donc c'est la mise à jour de politiques traitées ou abordées. Hier, hein, c'est une réunion qui a eu lieu hier. Si votre présentation aborde la question des IPv6, vous pouvez aussi nous apporter un petit peu là-dessus aussi quelque chose à ce propos.
On va essayer de le partager avec les participants à distance. Et donc, voilà la présentation que nous avons faite hier après-midi. On va passer à la diapo suivante. Je suis Louis Lee pour le procès-verbal. Je suis le président du conseil d'adresse et de discours de l'organisation de support. On a fait mise à jour des activités de NRO et ASO. On a fait des mises à jour de politique, puis la sélection de gens pour les directoires d'ICANN et les workshops de l'IGF. On a expliqué comment participer des politiques d'adressage. On a présenté un rapport de révision de ASO et puis les résultats du sondage de la mise en place de l'IPv6 global. Bonjour, je suis John Curran, le président de l'organisation ASO. C'est une organisation qui aborde les politiques d'adressage. Et notre organisation de support d'adressage travaille avec le NRO et les 5 registres internationaux travaillent ensemble dans le RIR. Et je suis le président du NRO. Et puisque le NRO a accès à l'ASO, je suis aussi le président du ASO. On a élu des membres pour le conseil consultatif. C'est le ASOAC. Et c'est Louis et le président de ce conseil consultatif pour l'ASO, c'est le ASOAC. Bien, Louis reprend la parole. Je pense que j'aurais pu l'être. Bien, on continue. Les activités de ASO pour cette semaine ont une mise à jour du GAC sur la mise en place du RPKI. Un workshop sur le ASO sera mercredi après-midi et la session IPv6 jeudi matin. J'ai aussi parlé avec le public et leur ai transmis cette session d'ici, comment on travaille ensemble avec ALAC. Les gens peuvent participer, dit John Curran. Oui, bien sûr, c'est Louis qui continue. Ce sont des réunions ouvertes et les gens devraient venir. Bien. Quant à la proposition de politique globale pour les sociétés de publication des mécanismes d'assignation d'IPv4, Diana, c'est sur les politiques de ressources de numéros globaux, ceux qui sont toutes neuves. On a commencé à travailler le mois dernier. Ce sont les ressources que les RIR nous fournissent, et le RIP, NCC et le R1 ont des ressources pour les distribuer autour du monde. Et ils le font. Oui, la diapo suivante. Louis, quand tu dis ressources, je pense que c'est des numéros, des adresses IPv4. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui demandait. Oui, dans ce cas, c'est des adresses IPv4 qui ont été retournées, qui vont être redistribuées, dit Louis Lee. Et il continue. Donc, des ressources qui incluent des adresses IPv4, IPv6 et des numéros AS dont on se sert entre les réseaux pour s'identifier, pour que les réseaux s'identifient les uns les autres. Bien, la sélection de membres pour le directeur d'ICANN. On a renommé Ray Polzak pour le siège numéro 9, et la correction dans cette diapo est que, en fait, son terme durera jusqu'en 2013 et pas 2014. Et le langage des statuts compliquait un peu la compréhension pour savoir quand est-ce que son terme finirait. Et donc, c'est 6 mois après la réunion générale de 2014. Donc, c'est 2015. Le siège numéro 10, où Kuwewu siège en ce moment, finira en 2013. C'est l'échéance de son siège. Donc, on commencera à travailler sur le processus de sélection. Je pense qu'on avait sauté une diapo avant la sélection du directeur. Bien. Voilà, dans la mise à jour de politique RIR, on a eu donc des politiques régionales en même temps pour le RIR. Et c'est pour les régions qui discutent et adoptent ces politiques. Nous avons aussi des politiques de transfert entre les RIR qui sont déjà en train d'être faites entre les régions. Apennik a adopté une l'année dernière et Arin a adopté une cette année qui va être mise en place dans peu de temps. On discute RIP, NCC et il n'y a pas de proposition à l'ACNIC et à FRIMIC. Donc si vous voulez voir davantage d'informations, venez nous voir dans le workshop de ASO. Alors, voilà, on revient à cette diapo des activités de sensibilisation de RIR pour le Forum de gouvernance Internet. Et cette diapo parle de la réunion de Bakou en novembre. Ce sont des activités coordonnées et financées par la NRO. Et lors de cette réunion, les participants MAG sont Paul Winson et Paul Rendek. Les workshops sont ouverts pour tout le monde. Particulièrement pour les workshops de RPKI et de gouvernance Internet. Vers la fin de l'année dernière, le rapport de révision du ASO a été fini, on l'a complété et on l'a publié en mars de cette année. Le lien envers ce rapport est publié ici. Et on a une réponse conjointe de la NRO et de la ASOAC qui a suivi un processus de réponse et de commentaires. C'est une réponse avec 26 recommandations du rapport et avec de nouvelles recommandations entre les commentaires. Donc, il répondait aux recommandations faites et il faisait d'autres recommandations. John Curran prend la parole. Donc, une des recommandations dans la révision de la ASO. Donc, c'était une révision indépendante. Et je voudrais la paraphraser en disant que NRO, ASO, ASOAC, je pense que les gens confondent la terminologie. Est-ce qu'on peut simplifier un peu pour le reste du monde? On pensait qu'on était très organisé et très clair avec l'accès de la NRO et de la ASO et du conseil consultatif de la ASO, mais on a d'autres organisations qui ont d'autres termes pour ces mêmes organisations. Et je pense qu'on pourrait voir comment on se sert des termes. Si on devrait parler de NRO, puisque la ASO fait les mêmes tâches, est-ce que c'est un conseil consultatif de ASO assez... est un peu compliqué parce qu'on ajoute des acronymes, donc peut-être de dire que c'est le conseil de l'ASO serait plus simple. Et puis on a 25 recommandations de plus. On va essayer de simplifier le rapport pour tout le monde. Vous aimez bien que ce soit simple, c'est ça? Bien. Donc les étapes suivantes avec ce rapport de révision est que le comité de révision structurelle va le reconsidérer. Ils vont voir comment ça leur applique. On pourrait parler avec le directeur d'ICANN qui va le regarder et on va voir comment ils veulent agir. On invite tout le monde à venir participer de nos réunions et vous-même aussi. Les réunions en elles-mêmes sont ouvertes. Et donc, il ne faut pas que vous ayez des membres du RIR et même pas invités dans la région. Je pense que le terme « membre » pourrait être chargé de connotation, mais même « participant ». Et si vous vivez hors la région, vous pouvez participer de toute façon. Ou si vous ne voulez pas venir, vous pouvez participer à distance. Il est gratuit de participer et vous devez simplement vous enregistrer pour avoir le lien. On a des programmes de boursiers qui sont disponibles. Et je pense que c'est tout. On est en train de voir comment on pourrait inviter ALAC et les RALO, tous les membres d'ALAC et des RALO. Et au-delà des réunions en elles-mêmes, les listes de réunions sont aussi ouvertes, donc vous pouvez accéder. Il ne faut pas que vous appartenez à la région, encore une fois, pour participer des listes de mails, même si vous voulez apprendre davantage sur une politique ou faire des suggestions pour la politique. Les diapos qui continuent parlent des réunions RIR à venir en ordre chronologique. Donc, la prochaine est à Penig 34 à Cambodge vers la fin d'août. Suivante. La réunion qui suit est vers la fin de septembre pour RIP 65 à Amsterdam. Vous savez peut-être que certaines de ces réunions sont plus longues que d'autres parce que, par exemple, lors de la réunion de RIP, ce sera une réunion de politique et à la fois d'accréditation. Et donc, les opérateurs qui seraient affectés par ces politiques nous aident à rédiger les politiques. Et puis nous avons la réunion ARIN à la fin d'octobre. C'est la semaine suivante à la réunion d'ICANN à Toronto. Et pendant la session d'hier, j'ai dit oui, c'est une réunion triplex. C'est ARIN 30. Pour ceux qui participent à distance, c'est pour cela qu'on rigole dans la salle. Oui, et elle sera à Dallas, Texas. Et peut-être qu'on aurait des réunions triplex à Dallas. Et puis la réunion de l'ACNIC, la numéro 18, sera entre octobre et novembre à Montevideo, en Uruguay. Et puis, vers la fin de l'année, à fin novembre, est la réunion numéro 17 d'AFRINIC au Soudan. Je veux savoir si vous avez des questions sur les réunions, que ce soit pour participer à distance ou en personne. Oui. Merci, Cheryl. Louis, ma question, c'est pas qui c'est qui parle. C'est que même si la plupart des ALS ont des connaissances préalables, et en fait, l'effet est que lorsqu'on dialogue avec les experts, on est un peu confondu. Mais je pense que c'est ça la brèche qu'il faudrait réduire, et au moins pour la réunion d'Apini, qui est celle qui est à venir avant. Et donc, on devrait fournir orientation pour participer de ces processus. Je pense que Paul va venir, n'est-ce pas? Je lui ai parlé, mais j'ai compris que notre RIR ne participait pas beaucoup. Mais ceci applique pour beaucoup des membres ALS d'Aperalo. Parce qu'ICANN a des sessions d'information de politique et je pense que les RIR devraient partager leurs propres réunions d'information. Oui, c'est John Curran qui prend la parole. Oui et oui. Donc, toutes les réunions RIR ont une orientation où on repasse la structure du RIR, comment les politiques fonctionnent, et puis certaines des politiques qui sont discutées en ce moment. Donc, ces événements sont populaires, même pour les gens qui ont déjà une grande connaissance. C'est une bonne manière de savoir quelles sont les politiques qui sont en train d'être discutées. Donc, elles sont populaires dans les RIR. Et en ce moment, nous avons commencé à transmettre ces réunions pour les participants à distance, pour ceux qui veulent participer à distance. Donc, il me semble que la plupart des RIR, on a un RIR, je pense, qui ne transmet pas ces réunions pour les participants à distance, mais ils envoient la transmission de plus en plus. Et je vois que des gens qui ont beaucoup de connaissances aiment bien même de participer à ces sessions. Lorsque je suis entrée à ICANN pour le programme de boursier, on nous a éduqués sur la participation du processus d'ICANN et c'est là que j'ai rencontré Cheryl et les autres regroupements et les comités consultatifs. Donc, même si on enregistre et on fait des webinaires sur ces sessions, si on a des personnes qui veulent participer physiquement ou ils pourraient s'informer sur le programme de boursier, c'est un type d'ordre à suivre. C'est Cheryl Langdonor qui prend la parole. Je pense que ça là voulait dire quelque chose. Moi, je pense toujours à ce que je voulais dire. Merci. Je suis Salanieta Talamani Kawan Maro pour le procès verbal. Je sais qu'on l'a déjà fait à San José, mais je voudrais vous féliciter de votre travail que vous faites à travers les groupes. Je voudrais que vous continuiez à le faire, même à travers les structures des ALS. Je sais que certains parmi vous sont des membres de ces structures, par exemple pour l'Asie Pacifique et APENIC a des listes pour notre ALS. Et ceci évolue les capacités et le renforcement de compétences. Et du point de vue de la protection des compétences publiques, la transition vers IPv6 et les politiques, la modification de politiques qui doivent être mises en place dans le champ, que ce soit des politiques ou des interactions avec le gouvernement ou l'amélioration de standards. Et particulièrement pour les pays en voie de développement où nous avons beaucoup de vendeurs qui nous fournissent des services qui ne sont pas utiles pour nous dans la transition. Et donc, ce que je voulais dire, je voudrais faire une suggestion, une recommandation qui a trait à ce que Riz a dit. Vous savez comment vous participez, vous travaillez avec les NOC. Et en ce moment, on se dédie à travailler avec les opérateurs de télécommunications et les équipes techniques gouvernementales. Et je vous encourage donc à augmenter le travail pour pouvoir continuer à travailler avec les gens qui ne sont pas techniques, mais en tant qu'action stratégique, qu'on devrait travailler dans le champ en termes de politique, de gouvernement, pour les aider à voir le panorama général, non seulement du point de vue technique. On sait que la transition doit être faite, Mais en fait, pour le niveau de réforme, pour que les sujets soient discutés en termes des réformes qu'on devrait faire et la standardisation, sur le site web, nous avons une liste de vendeurs et de standards. Mais donc, je voudrais vous encourager à continuer à travailler du point de vue de l'intérêt public, aux aspects qui nous intéressent, pour les personnes que je représente, veulent être protégées. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Salah. Je voudrais ajouter que il y a différents thèmes qui sont abordés dans cette réunion de LAA. Et c'est lui qui parle. Et par exemple, la façon de se déplacer, les fenêtres d'affect d'allocation, quelle série de politiques sont liées aux problèmes de gouvernance. Donc, en fonction aussi des informations qu'on peut publier dans les bases de données de WHOIS, la récupération d'un espace de données, comment valider des enregistrements, ce type de choses. Et peut-être que l'application de la loi aussi, le respect de la loi serait utile parce que certains usagers sont peut-être intéressés, surtout ce qui concerne les politiques dans ce domaine. Par exemple, le gouvernement canadien a voulu s'assurer que l'on n'écrive pas des lois qui forcent les ISP à violer les lois. Donc, on peut commencer avec un niveau vraiment de base, mais participer quand même. Hein. Merci, Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dit Olivier Crépin-Leblanc. Charline Langdonor prend la parole. Je sais que d'autres personnes veulent parler. S'ils parlent en espagnol, je vous recommande de mettre votre casque. Donc, cher Langdonor, je veux dire cela d'abord avant toute chose. Donner mon nom, donc, avant de prendre la parole. Et j'ai commencé la participation à distance. Et je le dis, c'est très important. C'est vraiment un outil pour nous tous et pour les membres des ALS de se sentir à l'aise sur certains thèmes. Je suis heureuse de savoir, d'entendre des équipes de débriefing qui sont venues ici. Parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais on a besoin aussi, et pour réconforter, pour rassurer nos membres, hein, il n'y a pas de problème technique si on a davantage de gens, et cela permet à notre communauté de se former d'une façon saine, d'une façon... Hein, c'est facile à regarder, c'est facile de participer, hein, et c'est vraiment pas compliqué. Et ce qui peut aussi arriver, c'est quelque chose que les ALS et les membres des ISOC ont mis dans leur atelier avec... Excusez-moi, j'ai un problème d'expression... Donc, un atelier sur... Il y a beaucoup de gens qui sont très bien formés dans ce groupe, hein, vous allez voir. Hein. Donc, nous avons réuni certains experts, nous avons monté un panel pour voir comment avoir de l'influence, comment parler par écrit, comment se rédiger, et dans le domaine des politiques et des acteurs politiques. Hein. Donc, voilà, c'est une façon... De travailler avec la communauté. Bien, merci, Cheryl, dit Olivier Crépin-Leblanc. Sergio, vous avez la parole. Sergio. Et merci. Et merci, Cheryl. Bonjour, John et Louis. Ma question est la suivante. Je m'excuse d'être arrivée un petit peu en retard. Hein. D'abord, je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais je voudrais savoir ce que fait l'ASSO en ce qui concerne le marché noir d'IPv4. Parce que je pense que c'est un problème qui entraîne un certain retard dans beaucoup de régions et au niveau de la mise en œuvre de l'IPv6. Donc je voudrais savoir si quelque chose est fait dans ce domaine pour lutter contre ce problème. Merci. Pour une question de clarté, vous voulez savoir ce que l'ASSO fait par rapport à l'IPv4 en général ou en particulier concernant les politiques de l'IPv4. Peut-être que on n'a pas compris ce que je voulais demander, mais nous avons vu qu'il y a un marché noir de vente d'IPv4 et donc j'ai peur que cela retarde le processus d'IPv6 dans la région. Et ma région, je ne sais pas si on les vend dans ma région n'a pas encore n'a pas encore reçu ces IPv6 et c'est ça qui m'inquiète. Donc ce marché noir des IPv6. Merci. Je vais répondre. Chung va répondre à cette question. C'est Chung qui prend la parole. Je ne pense pas qu'il y ait une région dans le monde qui ait vraiment entièrement déployé IPv6. Et nous avons eu du succès au début du mois. Il y a eu une journée de lancement d'IPv6 mondiale et ça a permis de passer pour certains serveurs comme Google ou certaines organisations comme Google, YouTube, Facebook à un système de migrer vers IPv6. Donc malgré ce progrès, je dirais quand même qu'il nous faut nous focaliser sur l'IPv6 et ne pas reculer dans ce sens. En ce qui concerne le marché, il y a une légitimation, une politique de reconnaissance légitime pour le transfert d'IPv4 dans la région et d'Asie-Pacifique, dans la région d'Amérique latine. Et je pense que si quelqu'un a besoin d'adresses IPv4, il peut les obtenir de quelqu'un qui les a et qui n'en a plus besoin. Donc, ça peut être des universités qui doivent renommer, mais en tout cas, il y a un fournisseur de services qui a besoin de ces adresses et qui peut donc et chercher quelqu'un qui veuille bien renoncer à ses adresses, donc ou à ses espaces d'adresses. Cette politique n'est pas un marché ouvert, c'est un marché limité. Et c'est un marché limité parce que la politique dit que dans les régions du Canada et des États-Unis et une partie des Caraïbes, la politique dit que vous pouvez former pendant 2 ans les adresses dont vous avez besoin, mais pas plus. Donc, les fournisseurs de services peuvent avoir négligé ou ignoré le fait qu'on n'avait plus d'espace d'adresse et ils ont constaté que maintenant, il fallait et qu'ils trouvent un espace d'adresse supplémentaire pour 2 ans. Mais ils ne sont pas sûrs que ce sera disponible la prochaine fois qu'ils auront besoin de davantage d'espace d'adressage. Donc, ici se trouve une manière responsable d'avoir un système ou un espace d'adressage aux États-Unis, mais ça ne fournit pas une solution permanente pour l'IPv6. C'est la position politique selon laquelle les opérateurs, les fournisseurs de services, les utilisateurs finaux, les gouvernements dans les régions citées. Et il y a une politique semblable dans d'autres régions aussi, je dois le dire. Donc, ou bien on a un marché de transfert pour les adresses IPv4 et ça peut prendre un peu plus de temps que l'IPv6. La participation n'est pas maintenant quelque chose qui a lieu au niveau permanent. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Allez-y, Sergio. Sergio Salinas prend la parole. Louis ou John, ma préoccupation, c'est qu'il existe un marché noir. C'est ça ce qui m'inquiète. Et que dans ce marché noir, on vend des adresses IP. Il y a quelque chose, est-ce que les RIR font quelque chose pour arrêter ce marché noir? Voilà la question que je voulais poser. Bien, John Caron prend la parole. Il y a beaucoup de gens qui discutent de la possibilité et de l'existence de ce marché noir. Et c'est tout à fait possible si l'on achète une compagnie dans sa totalité, par exemple, et qu'on l'achète seulement pour son espace d'adressage. Hein, c'est difficile à détecter parce que tout à coup, LouisNet et JohnNet sont une compagnie et je vais reprendre ce que Louis avait laissé il y a des années. Hein. Donc, ce type de choses est possible. Mais c'est un nombre limité de circonstances parce que si vraiment une compagnie a un espace d'adressage d'une autre compagnie reçoit cet espace et que ce sont des organisations valables toutes les deux, les registres doivent être à jour pour que les fournisseurs de services acceptent cela. La plupart des fournisseurs de services s'occupent des registres. Et lorsque on a l'ARM, le seul transfert que l'on reconnaît en termes de transfert, c'est celui qui respecte les politiques. Et donc, nous sommes contents, nous sommes satisfaits de ce système. Nous avons une bonne ces principes fonctionnent bien, disons. Il peut y avoir des parties qui essayent de le faire. C'est beaucoup plus facile de faire, en tout cas, un transfert légitimé parce que c'est beaucoup plus simple que de faire un transfert illégitime. Ce n'est pas parfait, mais nous pensons qu'il peut y avoir des choses illégales faites dans les transferts, mais nous pensons que le problème sera plutôt dans les transferts légitimes plutôt que dans les transferts illégitimes, parce qu'un transfert avec un marché noir, le risque qu'on a, c'est que la communauté de l'ISP ne reconnaisse pas ensuite ces espaces d'adressage. Merci. Merci d'avoir répondu à Sergio. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose qui est lié à ce point en particulier? Bill Frevent, un des trois membres de la région européenne du Conseil d'adressage. Un commentaire ici. Il y a dans notre région aussi des problèmes et des discussions qui ont lieu en ce moment-là concernant tous les aspects, pas seulement les aspects de transfert technique, mais tous les aspects de transfert d'adressage, de transfert d'adresse entre les régions ou au sein des régions. Donc, c'est un commentaire d'abord. Ensuite, l'autre serait qu'on est peut-être hors de portée pour cette communauté parce que ça va être un peu technique ici, mais cela est lié, ce que je voulais dire est lié à l'impact potentiel du transfert d'adresse IPv4. Et de la mise en jour et de la migration vers IPv6. On a fait des recherches dans mon pays et quelques universités qui ont été contactées par des organisations qui leur demandaient s'ils étaient prêts à s'engager dans le transfert d'adresse. Et l'environnement technique pour ces communautés étant ce qu'il est, j'ai commencé à travailler avec mes collègues et à faire une petite recherche pour voir qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact ou comme effet secondaire au niveau politique. Parce que, en ce qui concerne la gestion, et si j'ai, par exemple, une série de nombres ici que quelqu'un les veut, on va m'offrir de l'argent. Donc, il faut que ce soit une bonne affaire. Si on regarde la mise en œuvre technique, on se rend compte, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue de mes collègues dans l'équipe technique aussi, que le véritable problème se trouve dans la mise en œuvre de ces transferts au niveau technique et d'arriver à cohabiter avec les effets secondaires de ramification des deux côtés, parce que finalement, on a une espèce de poule ou une espèce de marécage d'interdépendance. Hein. C'est assez différent si l'on regarde ce qui se passait dans l'espace d'adressage 1.9. Et les universités vont pouvoir renoncer à certains aspects de leur... Je ne veux pas vous compliquer trop longtemps et vous parler de l'authentification, de la signature, de racines, etc., de zones. Mais si vous voulez savoir si c'est une bonne idée d'accepter un peu d'argent en échange d'une opération d'une certaine complexité, c'est le message que vous devez donner aux responsables de la gestion parce qu'ils sont probablement dans une place où, dans une fonction où ils peuvent comprendre les ramifications du DNS et le fait que ça peut entraîner votre inscription dans une liste noire parce que vous travaillez avec des personnes et cela n'est pas qui ne sont pas vraiment compatibles avec votre position. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de compréhension, comprendre les implications opérationnelles qui existent là. J'ai une dernière question de Yaovi et ensuite on va s'arrêter là, s'il vous plaît, que nous sommes en retard. Yaovi, merci. Je trouve que cette session a été très utile. Et les gens le fait que les gens des NRO qui sont venus ici, NRA, qui sont venus ici, montrent qu'ils participent à ce processus. Et dans la région africaine, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des techniciens et la plupart des registres. Hein, et moi, ce que je ferais comme commentaire, c'est que nous devons travailler avec ces sites, nous devons trouver des documents, même si. Et ces informations nous paraissent sans importance. Nous devons parler avec les ALS, nous devons participer parce qu'on voit ces gens qui viennent aux réunions, qui ne sont pas informés et ces informations ont posté des informations sur leur site Internet. Il y a un processus de développement de politique, il y a des gens qui participent. Ce sont des choses qui ne sont pas techniques et donc je pense qu'il faut au moins, en tout cas, essayer de participer dans ce sens et à travers le site Internet. Merci. Merci beaucoup, Yaovi. Bien, la dernière diapo. Merci. Alors, donc, le sondage pour le déploiement de l'IPv6, il va être conclu à la fin de ce mois. Si le lien, vous le voyez sur l'écran. Et allez-y, répondez-nous, même si vous ne voulez pas migrer tout de suite au système IPv6 pour votre organisation. Mais ça peut quand même vous intéresser. Hein? Vos données seront présentes pour donc vous participerez, vous recevrez les tendances actuelles comme ça. Bien, est-ce que vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous suivre? Louis et Jean Caron, merci beaucoup d'être venus donc nous faire cette présentation. Merci. Et nous allons maintenant passer à la partie suivante de notre ordre du jour. Nous promettons la prochaine fois de faire les choses correctement. Hein? Merci. Bien, nous avons Ventis Cartazini, présidente d'une NOMCOM, élue. Présidente élue du NOMCOM, nous vous remercions. Nous excusons pour ce petit retard et j'espère que nous. Vous avez une présentation, non? Non, c'est quelque chose. On m'a demandé. C'est la même présentation que nous avons faite à Costa Rica, donc c'est peut-être plus intéressant de parler de ce qui a lieu dans le processus d'ICANN, peut-être. Hein? C'est peut-être plus intéressant parce que le profil, je pense que c'est un bon moment de connaître votre opinion, votre contribution. Nous sommes dans un processus de sélection. Nous sommes en train d'interviewer les gens. Nous sommes dans ce moment du processus. Donc, nous avons besoin de définir, avant la fin de cette semaine, qui est-ce que nous allons sélectionner. Donc, c'est encore le moment de recevoir de connaître votre avis, votre opinion, pour que vous nous disiez aussi ce que vous attendiez de nous et dans cette sélection de personnes pour ALAC. Hein. On en est à ce point-là. Hein. On est en train d'avoir des entretiens, d'organiser des entretiens avec des personnes. On a fait une présélection déjà de certaines personnes et nous sommes en train de les réinterviewer. Et entre vendredi et lundi, nous allons devoir définir qui va être sélectionné. Et nous allons devoir envoyer ces noms, hein, les noms de ces personnes aux équipes, au personnel d'Internet. Voilà. Hein? Bien. Mon travail ici est un petit peu différent. Je suis le responsable de l'année prochaine, du NOMCOM de l'année prochaine. Et donc, je dois consacrer du temps à la préparation donc de l'année prochaine, le choix de nomination pour l'année prochaine. Le budget n'est pas fini, mais je suis heureux. Je serai heureux de vous parler de certains points, des différences par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a différentes choses, hein, et nous allons faire certaines choses différemment par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Donc, Vanda va vous présenter les choses de cette année, au milieu d'année, disons, et moi, c'est plutôt l'année prochaine. Bien, merci. Une minute. Je voudrais rafraîchir un petit peu certains aspects de choses dont nous avons parlé avec le board concernant le processus de sensibilisation qui doit être réalisé. C'est une tâche permanente. On ne peut pas attendre la fin de l'année pour contacter les gens et s'occuper des nominations pour l'année suivante. Et on a des périodes de temps qui sont très courtes. Donc, c'est un travail difficile de trouver les gens dans le monde, hein, en plus. Et cela est aussi, il y a aussi les questions de vacances et les moments où les personnes ne sont pas disponibles. Donc, c'est un problème qui a été soulevé aujourd'hui avec la réunion avec le directoire et les anciens étudiants. On a parlé de ce type de problème. Et on a le problème de sensibilisation qui doit être fait en permanence. Hein. Merci, Wanda. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je crois qu'il y a un consensus pour ne pas avoir de présentation aujourd'hui, puisqu'on a déjà vu cette présentation à Costa Rica. Donc, Jean-Jacques, Alain, une chose, nous voudrions d'abord vous dire ce que nous cherchons comme personne pour ALAC, les standards, hein, nous voulons des gens qui travaillent beaucoup, on a besoin de gens qui vraiment consacrent beaucoup de temps à leur travail. Mais on n'a jamais vraiment parlé de ce que vous voulez qu'on vous dise pour l'année prochaine concernant les personnes du NOMCOM. On vous a envoyé 5 personnes, on n'a jamais eu de discussion concernant les qualités que vous cherchez. Je pense que ce serait aussi utile pour nous que vous nous le disiez. Oui, c'était de ça que j'allais vous parler, justement. Donc, si vous voulez, je passe directement à cette question. Il y a des choses qui sont différentes. Vous allez recevoir, comme je l'ai dit, et je pense que je parlerai avec votre président. Je vais lui demander une sélection avant cette réunion. On a eu une réunion avec le comité de sélection du directoire. On voulait être sûr que tout le monde soit d'accord. Donc, vous allez recevoir des communications dans les semaines à venir. Je vais vous demander de me faire une petite liste rapide et une des nominations. Présentation de nom pour le comité de NOMCOM de l'année prochaine. Comme Vanda l'a dit, ce NOMCOM a fini d'accomplir ses devoirs, disons, son travail le dimanche. Donc, nous avons perdu 4 ou 5 mois et nous allons perdre 4 ou 5 mois qui sont un petit peu un temps mort. On va voir comment nous utilisons ce temps. Nous avons une permission du Conseil général, mais nous allons essayer de reprendre nos réunions au mois d'août. Et donc, le nouveau NOMCOM va commencer ses réunions avant l'IGM. Et nous espérons trouver des candidats pour l'IGM. Et l'autre changement que nous allons faire est le processus de sélection. Nous essayons de parvenir à un programme de NOMCOM pour le futur. Et donc, je suis sûre que on reviendra sur ces points-là, mais ce que nous essayons d'éviter, c'est parce qu'il y a toujours un moment où on est très pressé. On n'a pas beaucoup de temps entre le moment où on reçoit les candidats et le moment où on doit décider et quel candidat, ou s'il faut davantage de temps pour davantage d'entretiens, davantage de renseignements sur les candidats. Il y a beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps aussi de recruter. Hein. Il y a plusieurs phases ici. Hein. dans ce travail. Il y a deux domaines clés en ce qui concerne ce que fait le NOMCOM. D'abord, on choisit parmi les meilleurs candidats que nous avons. Le NOMCOM sont très efficaces dans ce domaine, je pense. L'année dernière, comme j'aime bien le dire, nous avons eu un groupe vraiment très, très différent, le plus différent, plus diversifié, disons, au sein d'ICANN. Et tout le monde était unanime au sein de la communauté. Et c'était un bon choix. Donc, je pense que c'est bien. On travaille ensemble. On peut laisser de côté les différences politiques, les aspirations politiques que nous avons. Il faut faire le mieux, du mieux. En pensant au futur d'ICANN, ce qui est le mieux pour le futur d'ICANN. Donc, je pense qu'ici, ce qui compte, c'est le recrutement. On choisit les personnes dans les groupes que nous avons. La communauté doit nous présenter un peu plus de possibilités pour ces candidats. Donc, je vais vous demander une description de du type de candidat qu'on recherche pour le comité de NOMCOM. Je vais vous dire aussi les candidats qu'on cherche pour l'autre fonction qui est celle du directoire. Pour la prochaine fois, le comité de nomination va recevoir l'avis du directoire de ce qu'ils cherchent et quel type de compétences ils ont besoin, s'ils ont besoin d'un type de connaissances dans le domaine de la gouvernance, le type d'expertise qu'ils veulent. Hier, on l'a dit, d'ailleurs, on en a parlé. Donc, je vais vous demander, c'est à vous de nous envoyer des gens, mais je vais vous demander de nous envoyer des gens qui ont une série de compétences similaires à celles que nous avons demander que nous cherchons, parce que on a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la gouvernance du directoire, mais des fois, on peut savoir qui sont ceux qui sont bien formés, ceux qui ne sont pas bien formés. Donc, je vais vous demander d'essayer de nous envoyer des gens qui ont une série de compétences qui vous semblent être importantes pour un bon directeur. Voilà, vous avez compris ce que j'ai dit? Donc, voilà, c'est votre décision, mais c'est ce que je demanderai. Je vous décrirai les compétences recherchées. Je pense que une personne qui va travailler dans ce domaine est bien placée pour évaluer les autres. Et l'autre point clé, et c'est tout à fait possible que le comité de NOMCOM ne se réunisse pas au même moment que la réunion d'ICANN. Donc, les personnes qui participent aux réunions d'ICANN, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Les gens qui sont jamais venus aux réunions d'ICANN, c'est pas un problème. Il y a eu des pressions dans le passé. Si on regarde, une des raisons était que notre prochaine réunion de prise de décision aura lieu en Afrique. Et donc, la prochaine réunion a lieu à Toronto et donc beaucoup ne peuvent pas y venir parce qu'ils ont un problème de visa. Donc, il faut essayer de s'organiser pour que ça soit fait dans une réunion, au cours d'une réunion à laquelle tout le monde peut assister facilement. Donc, c'est important pour donner davantage de temps à la communauté aussi. Donc, on commence tôt, on finit un petit peu plus tard. Mais il ne faut pas partir du principe que ça va toujours coïncider avec les réunions d'ICANN. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, je comprends vos statuts, etc. Oui, peut-être un peu plus lentement. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous dites, quand vous dites court, de quoi vous parlez? Je pense que je vais demander 30 ou 45 jours, si ça correspond à vos statuts. Et des fois, c'est pas possible, mais je vais vous demander de le faire dans ces temps-là, parce qu'on voudrait commencer notre réunion avec le premier comité de NOMCOM en automne. Donc, on va voir aussi les processus, les procédures. Il nous faut éduquer les personnes, beaucoup de gens travaille dans différents domaines, mais aucun candidat ne va devenir visible pour le NOMCOM. Il n'y aura pas d'informations sur ces candidats qui vont être diffusées avant l'année prochaine. Merci. Nous avons beaucoup de questions et nous avons très peu de temps. Nous avons déjà deux personnes dans la queue, Jean-Jacques, Eduardo et Darlene. Ça fait trois personnes. Donc, nous avons 25 minutes. Hein? Nous sommes... Il manque 5 minutes pour finir la session. Donc, une question que j'aurais concernant le processus. Je pense que un NOMCOM doit être... le NOMCOM doit être dissous pour que l'autre NOMCOM puisse commencer à travailler, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, mais ce n'est... On sait qui c'est qui va entrer et c'est dans le statut. Un nouveau NOMCOM ne va pas commencer à siéger après l'IGM. Donc, l'année dernière, on a eu le GNSO. On est venu deux jours avant la fin des NOMCOM. Et les nouveaux NOMCOM préparent le travail et font la partie administrative, mais l'autre NOMCOM est aussi en fonctionnement. Il n'y a pas de doublon comme ça. Mais comme l'année et exercice fiscal commence au mois de juillet, on travaille comme ça pour s'assurer que nous respectons toutes les lois. Nous essayons d'être efficaces.
Bien, donc nous avons Jean-Jacques, Eduardo et puis une question de plus, donc Tijani. Et puis on continuera avec le point suivant. Bonjour Eduardo, bonjour Rob, c'est Jean-Jacques qui prend la parole. J'ai une seule question et c'est en fait une remarque. Vu mon expérience dans le directoire et maintenant dans ALAC, je vois qu'il est probablement utile de peupler les comités et les AC et les SO. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un tel profil ou d'un autre. Mais ma question, en fait, porte sur le directoire. Jusqu'où vous vous sentez contraigné par ce que le directoire, le président du directoire, ou alors par ce que le PDG vous dit qu'on doit faire ou ce dont on a besoin? Parce que dans le passé, on a vu des gens qui avaient des qualifications, des formations magnifiques. Ils étaient les meilleures personnes, les plus capables dans leur part du monde. Et puis, le directoire fait quelque chose qui n'est pas éthique. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Les capacités, la formation, les compétences ou alors les valeurs personnelles? Ce que je veux dire est que le caractère, la personnalité, la confiabilité et la capacité de travailler avec d'autres personnes est beaucoup plus important que n'importe quel autre type de compétence. C'est Vandas Kartesini qui prend la parole. On tient compte de toutes les recommandations de toutes les communautés, telles les AC comme les SO. On inclut le directoire. Mais nous ne nous sentons pas contraignés par ces exigences. On se rend compte vraiment. Et en fait, nous sommes indépendants. La façon dont nous allons sélectionner des personnes porte sur les qualités des personnes. Donc la formation, en fait, c'est leur personnalité et la façon dont ils se présentent avant nous, auprès de nous, est très importante. Et la façon dont ils peuvent nous convaincre du fait qu'ils peuvent travailler en équipe et travailler dans le directoire est très importante dans cet aspect parfois. Et donc, on essaie de compléter les espaces vides selon les compétences dans le directoire, bien sûr. Mais ça dépend du groupe de personnes que nous avons, parmi lesquels on va sélectionner des membres. Peut-être qu'ils cherchent une personne qui est qui parle une telle langue, mais on ne peut pas avoir cette personne au sein de ce groupe. Donc pour nous, ce qui est plus important est de garantir qu'on fait attention à tous les requis qu'on reçoit de toutes les communautés, non seulement du directoire. Le directoire est simplement une communauté de plus. Et on a plein de choses qui ne sont pas pareilles. Et même parfois, on a un conflit qui sont des requis et d'autres regroupements ont requis certaines compétences pour le directoire. Donc, notre idée est de s'assurer que, tel que la TRT le requiert, de compléter, de satisfaire les besoins autant que possible. Mais pour l'accord général entre tous ces requis, c'est-à-dire, c'est notre demande pour ATRT. Merci, soyez bref, s'il vous plaît, dit Olivier Crépin-Leblanc. Oui, dit Rob Hall, je veux être clair. On est un comité indépendant, on n'est pas restreint ou contraigné par aucun comité. Mais par rapport à ta question, on doit rapporter au directoire sur la façon dont les individus qu'on a sélectionnés pour le directoire complètent, satisfaits ou pas leurs conseils. Donc, je pense que personne ne se sent contraigné à suivre leur avis. Le seul avis que nous recevons du directoire est dans l'aspect où on nous dit que la personne devrait avoir d'expérience en gouvernance, directoire, etc. Mais en fait, on ne reçoit pas l'avis ou le conseil du directoire. On sélectionne des membres individuels. Et l'aspect éthique, et les valeurs et les capacités d'une personne pour bien communiquer sont beaucoup plus importantes, parce que je ne pourrais pas sélectionner une personne qui aurait été le gouverneur parfait pour le directoire. Ayant dit ceci, Vanda et moi sommes dans deux positions différentes dans la communauté, parce qu'on ne sélectionne pas. Elle est la présidente, moi je serai le président. Donc notre but est que les personnes qui font la sélection à travers du processus, et vous comprendrez qu'ils ont des différents points de vue, dans le NOMCOM par rapport à ce qui est important ou pas. Et donc, notre travail est de les aider à atteindre un consensus. Hein, j'espère avoir répondu. Merci. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui reprend la parole. Nous avons trois personnes de plus. Eduardo Darlin, je ne sais plus qui c'était qui. Ah, Tijani, voilà. Donc, Eduardo, on pourrait faire des questions brèves et des réponses brèves, s'il vous plaît. Bien, c'est une question rapide. C'est Eduardo Diaz qui parle. Je voudrais savoir quelle était la quantité finale de candidatures que vous avez reçues cette année. Rob Hall dit 72. Merci. Fantastique. Darlene. Darlene prend la parole. Juste Darlene Thompson. Ce qui me préoccupe est le fait de dire que vous n'allez pas vous réunir pendant les réunions d'ICANN. Je ne comprends pas. Mais aussi, ce qui me préoccupe est les personnes qui sont sélectionnées à travers le comité. J'ai vu que vous avez sélectionné des personnes merveilleuses à travers le comité de nomination. Quelques-unes sont ici, telles que Banda. Mais j'ai vu des personnes qui ont été embauchées qui n'étaient pas bonnes du tout. Donc, il y en a eu des personnes qui n'ont jamais rien fait ou en fait dont on n'a jamais entendu parler. Donc, je pense qu'on devrait avoir une certaine familiarité avec le processus d'ICANN pour ceux qui sont dans le comité de nomination, dans le NOMCOM, mais ceux qui vont vous suivre aussi. Et pour ceux qui sont nominés ou nommés pour avoir ces postes, parce que 2 ans ne sont pas suffisants. Et on a vu ça auparavant. Et je vois qu'en ce moment, ceci commence à être effectif. Et j'ai été ici depuis 5 ou 6 ans. Donc 2 ans ne sont pas suffisants pour qu'une personne qui n'appartient pas à l'ambiance, qui ne sait rien de nous, se mette au courant. Donc c'est ça ma préoccupation. Merci. Bon, Rob Hall dit, bon, je vais corriger ta déclaration. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on n'aurait plus de réunions avec ICANN. J'ai dit qu'il serait possible de ne pas avoir des réunions en simultané. Donc, cette année, on les a fait coïncider avec toutes les 3 réunions. Mais je veux suggérer qu'il est possible que ce ne soit pas ainsi. Donc, je ne veux pas que tout le monde pense que ce sera ainsi et puis les décevoir. Comme j'ai dit, on se réunit et on travaille ensemble et on essaie de le faire, mais il ne faut pas le supposer. Mais j'espère ne pas avoir des problèmes pour aller à Toronto. Je suis canadien. Mais bon, par rapport à ton autre commentaire, le travail d'un homme-com n'est pas de décider sur les problèmes au syndicat. Le travail d'un homme-com n'est pas de comprendre tous les problèmes qui se présentent à la GNSO ou au directoire. Le travail d'un homme-com est de choisir des personnes brillantes qui puissent le faire. Et donc, je ne crois pas qu'il soit nécessaire, et c'est mon opinion personnelle, hein, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire comprendre à une personne comment ICANN fonctionne et toutes les discussions de politique et les décisions et tout ce qui se passe au sein d'ICANN pour choisir de personnes brillantes. Et donc, lorsque je le considère d'un autre point de vue, je dirais qu'on peut avoir plein d'expériences dans ICANN ou ne pas avoir d'expérience ou y avoir de l'expérience dans la gouvernance du directoire. Et donc, n'importe quelle des deux compétences serait géniale et aucune d'elles ne serait un problème. Donc, n'envoyez pas des personnes en homme-com qui n'ont pas d'expérience ni dans ICANN ni dans la gouvernance du directoire. C'est à vous de choisir les candidats. Mais dans mon opinion, vous devriez envoyer des personnes qui aient d'expérience dans la gouvernance du directoire et qui ne savent rien de l'ICANN et vice-versa. Mais tenez compte du fait que le travail n'est pas de résoudre des problèmes de politique d'ICANN. Leur travail est de trouver des personnes qui puissent le faire. Et je surligne le mot « trouver ». Parce que le groupe, je pense, a la portée la plus large de toutes les personnes à qui on a parlé. Et on a davantage d'acteurs pour les corporations les plus grandes et avec l'expérience de gouvernance qu'on cherchait. Donc, s'il vous plaît, envoyez des personnes qui puissent trouver ces personnes. Et puis, aidez-nous à décider dessus et que ces personnes nous aident. C'est ça la solution pour nous. C'est pour cela, c'est Darlene qui continue, que je faisais mon commentaire. Peut-être qu'ils ne doivent pas savoir beaucoup dans le détail d'ICANN, mais ils doivent avoir une idée, sinon on ne peut pas sélectionner des gens brillants. Et peut-être qu'ils trouvent des personnes qui sont des professionnels merveilleux, mais ils ne savent rien d'ICANN, ça pourrait être un problème. Rob dit, bon, on ne parle pas de responsabilité ou de reddition de compte. En fait, toutes les expériences qui peuvent se déclencher à partir des situations ne sont pas notre travail. On cherche des personnes qui aient des valeurs morales bonnes. Et ceci changera dans le temps. Tous les membres du NOMCOM vont avoir des mandats différents parce que notre travail est de maintenir les différences et que le directeur ne soit pas pareil partout. Mais pour l'année prochaine, on cherche de l'expérience de directoire, de gouvernance dans le directoire senior. Peut-être que l'année prochaine, on aura besoin de personnes différentes. Mais ce sont des aspects légaux. Je ne sais pas si c'est trop spécifique, mais en tout cas, j'espérais pas de répondre trop longuement. Darlene a manifesté une préoccupation, dit Olivier Crépin-Leblond, d'avoir des délégués au NOMCOM qui n'ont peut-être pas assez d'accès à nous pour discuter ce qu'on requiert aujourd'hui pour le NOMCOM. Et donc, ce serait mieux de nous voir lors d'une réunion d'ICANN. Je pense que c'était ça que Darlene voulait dire. Souvenez-vous, dit Rob Hall, qu'on vous a demandé de faire vos contributions avant. On a demandé à votre groupe ce que vous voulez pour le directoire et ce que vous voulez pour ALAC. On vous l'a demandé par écrit. Il y a beaucoup, très peu de groupes qui nous l'ont fourni. On va vous en reparler. J'aime bien parler au groupe. C'est le seul groupe qui nous a invités à parler et on vous remercie de l'avoir fait. Et j'aime bien de le faire à chaque réunion et de parler avec vous pendant une heure parce qu'il me semble très important et c'est pour cela que je me réunis avec vous pour le faire. Vous avez 5 sièges dans le NOMCOM. J'aime bien que vous vous engagez dessus et j'espère de pouvoir vous encourager à continuer à avoir ce niveau d'engagement pour qu'il soit encore plus efficace. Merci, Olivier Crépin-Leblond. Dit, nous avons Tijani, Alan. Est-ce que tu voulais faire un commentaire sur ce point? Bien, donc, tu vas dire une phrase. Une phrase d'Alan parce que ça a trait à cette conversation. Et puis, Tijani, tu peux avoir le dernier mot. Alan Greenberg dit, Rob, tu as dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, que tu voulais avoir des personnes qui reconnaissent, des personnes qui aient les compétences de gouvernance de directoire. Lorsque tu sélectionnes des membres pour le NOMCOM, Vanda ne nous donne pas des gouverneurs. On n'a pas besoin de gouverneurs. On a besoin de personnes qui puissent faire des tâches différentes, qui puissent les mener à bien. Alors, s'il te plaît. C'est Rob Hall qui parle. Oui, on a entendu ce que tu conseilles. Le conseil est officiel pour le directoire. Et on n'oublie jamais qu'on est aussi des membres d'ALAC et de la GNSO. On considère les conseils de la GNSO, d'ALAC, du directoire. Et le comité suivra leur conseil lorsqu'il nommera des personnes pour leurs organisations. Et on essaie de compléter les sièges du directoire en premier. C'est ça. Merci. Alors, Tijani, d'Olivier Crépin-Leblanc, c'est Tijani Benjamin qui prend la parole. Donc, par rapport à la réunion du NOMCOM et indépendamment de la réunion d'ICANN, je ne vois pas davantage dans cette solution. Parce qu'en fait, quand on se réunit en même temps, on peut participer des deux réunions. Et puis, le deuxième avantage est qu'ils peuvent interagir avec nous. Le problème des visas est pareil pour chaque membre de n'importe quel regroupement d'ICANN. Et pour toutes les réunions, c'est pareil. Je ne pense pas que ce soit un problème spécifique pour le NOMCOM. C'est mon premier commentaire. Et puis, pardon, Rob Hall dit qu'il veut répondre. Alors, en fait, ce n'était pas que je voulais dire que c'était un problème de visa. C'était un exemple concret. On vient de commencer à maintenir des entretiens et on va continuer à le faire pendant 3 jours. Puis, on aura 3 jours de débat par rapport au plan. Et hier, on s'est réunis pour que ce processus du NOMCOM commence. On s'est réunis pendant 1 heure. Et vous serez surpris de voir la quantité de personnes qui ont d'autres engagements ici, aujourd'hui, parce que c'est le jour des regroupements. Et donc, pour être direct, on n'a pas eu de membres d'ALAC lors de notre réunion d'hier, parce que ça coïncidait avec votre réunion des 10 années de l'anniversaire. Et donc, je comprends, mais tout le monde est très occupé lors d'une réunion d'ICANN et je pense que tout le monde devrait centrer ses attentions sur les réunions de NOMCOM pendant le processus de sélection. Donc, je pense que ceci n'est pas bon pour les gens, on ne peut pas assister. Donc, pour les réunions de sélection finale, on devrait trouver la façon de pouvoir tout faire. J'espère ne pas vous vexer, mais je pense que c'est d'une importance vitale et on devrait trouver la façon de tout faire. Bien, mon deuxième commentaire, Tijani, et par rapport aux commentaires, au feedback entre les présidents d'ALAC et du NOMCOM. On vous envoie 5 personnes et on ne sait pas quelle est leur performance dans le NOMCOM. On ne vous demande pas de les juger. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir des commentaires de votre part qui devront se faire confidentiellement au président d'ALAC qui va se réunir avec le RALO pertinent, correspondant, et qu'on devra aborder ce sujet une autre fois. Tijani, je t'assure que le président reçoit des commentaires, dit Olivier Crépin-Leblanc. Bien, merci, dit Tijani. On va prendre la parole. En fait, tu te trouves dans une situation différente que les 5 membres d'ALAC. Et je te suggère de parler avec eux. Le seul regroupement avec plus d'un regroupement commercial accepté devrait pouvoir s'asseoir ensemble et parler et se dire ce qu'ils pensent les uns des autres. Je ne sais pas si ce serait bien de parler au président et lui dire si on pense que c'était une personne efficace ou pas pour le NOMCOM. Je n'aime pas cette position. Je ne sais pas si le président devrait faire une critique des décisions d'ALAC. Je comprends que ça pourrait être très frustrant. Mais il me semble qu'on pourrait avoir les mêmes informations à travers d'autres moyens, comme si Vanda venait faire des critiques des gens. Oui, c'est Vanda Scartesini qui prend la parole. On ne peut pas faire des critiques des personnes. On peut simplement transmettre le message qu'on veut avoir des personnes qui aient de l'expérience dans la gouvernance du directoire. Donc, envoyez ce genre de personnes, parce que le reste des gens sont un mal de tête. Oui, c'est Sherry Langdonor qui prend la parole. Je vais corriger. On n'est pas un regroupement. Nous sommes un comité consultatif. Donc, si vous voulez comparer les regroupements, avec les comités consultatifs, ce serait des ALS. Le groupe de parties prenantes non commerciales est un de nos alliés. Vous parlez maintenant avec le conseil de la GNSO. C'est juste une précision. C'est pas qu'on est vexé, mais je voulais le clarifier. Pardon, dit Rob Hall. Je suis un peu mal à l'aise avec la terminologie. Je me suis trompée. Mais il y a une grande différence. Tout à fait. Merci. Bien, Olivier Crépin-Leblond dit qu'on devrait finir. J'ai reçu des commentaires non seulement du président, mais des commentaires de tout le monde dans le NOMCOM. Et je connais beaucoup de personnes au NOMCOM. Donc, on n'a pas seulement des personnes d'at-large qui participent du NOMCOM, mais plein d'autres personnes. Et on nous dit qui est-ce qui a dit de trop, qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de travail de sensibilisation, parce que, en définitive, on peut trouver des façons, en tant que le président, pour trouver des personnes qui fonctionnent. C'est un mécanisme qui n'est pas officiel du président, mais ça fonctionne ainsi, dit Rob Hall. Et Van Askartesini dit, bon, ça ne veut pas dire qu'ici, il y ait des personnes qui peuvent être envoyées un homme comme que ce soit le seul endroit où il y ait ce type de personnes. On a plein de personnes avec de l'expérience de gouvernance de directeur dans les ALS en même temps. Mais bon, c'était Banda Scartazzini et Rob Hall. On vous remercie, dit Olivier Crépin-Leblond. Il faut finir la session. Rob Hall dit, je comprends que vous avez eu des préoccupations par rapport au conflit et que vous avez adressé ce sujet aujourd'hui. Je voudrais bien en reparler avec vous en privé. Donc, je suis très directe. C'est ma 40e réunion. Vous me connaissez déjà. Donc, si vous avez des préoccupations, venez me les faire savoir. Je serai ravie d'en reparler avec vous. Mais il faut que je comprenne vos préoccupations pour pouvoir les aborder. Donc, ça m'a surpris un peu. Ça me frappe que ce soit une préoccupation. Je ne savais pas. Bien, merci, Rob, dit Olivier Crépin-Leblond. On en a parlé à Costa Rica. Mais en fait, je pense qu'on était préoccupés par rapport aux mises à jour et non pas par rapport à personne. Donc, ça n'aurait pas été juste de te confronter avec ce problème, parce que je ne pense pas que ce soit une confrontation, mais plutôt on voulait savoir où on en était, comment était la situation. Je ne pense pas que ce serait constructif de le discuter, mais merci d'avoir mentionné ce point. Je l'apprécie. On se reverra dans très peu de temps.